Bonsoir. Eh bien, ce soir, notre émission prend un titre particulier. Vous l'entendrez dans l'édito d'Henri Foucrot. Le monde est bouleversé et nous sommes en train de plonger. Pour cette première partie du journal de la France Libre, nous recevons, et c'est l'événement ce soir, Madame Karine Charbonnier, pour parler de l'entreprise et du monde de l'entreprise. Élue en 2015 conseillère régionale des Hauts-de-France, candidate sur les listes de Xavier Bertrand, vous serez alors vice-présidente, vous fûtes vice-présidente déléguée à la formation professionnelle et aux relations avec les entreprises. En tant que femme d'entreprise, après un début de carrière chez Arthur Andersen, vous rejoignez la direction du groupe familial Beck Industries à Armentières, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de boulonneries de sécurité pour l'énergie. En 2019, cette entreprise devient Beck Cooper Turner, acteur mondial des fixations au service des différentes industries de l'énergie. Et depuis 2021, vous coprésidez l'IFA des Hauts-de-France et assurez de nombreuses responsabilités à titre privé ou public pour la formation, mais aussi pour la recherche de talents. L'IFA, l'acronyme ne le confondez pas, c'est l'Institut français des administrateurs. Voilà. Eh bien, avant de reprendre contact avec vous dans cette longue interview, on cède la parole pour le temps de l'édito à Henri Foucrot.
Merci Alain. Bonjour madame.
Bonjour.
D'abord, on va dire que vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Patron, tenez bon ». Je vous fais voir à l'image, vous allez trouver ça, le parcours du combattant d'une chef d'entreprise. Paru chez Albin Michel, qui coûte pas trop cher.
Je me souviens plus. non, mais c'est un très bon rapport qualité-prix et j'en recommande chaleureusement
et que l'on
la lecture.
Peut consulter parce que Madame Charbonnier vient de me le dire, on peut le consulter par internet et donc
sur Kindle,
l'acheter et le lire sur Kindle, voilà.
Alors, avant de disserter sur la politique, son présent et sur son avenir, il est important de se pénétrer de quelques vérités. Et de connaître certains chiffres. 2025, PIB mondial, c'est 110 000 milliards de dollars. L'USA, première puissance économique mondiale, 28 000 milliards. Chine, seconde puissance économique, 22 000 milliards. France, septième rang mondial, avec 3 300 milliards de dollars, 9 fois moins que les USA. Or, 1960, la France était la quatrième puissance économique mondiale et ne pesait que 4,6 fois moins que les USA. Baisse de notre place dans le monde économique, suivie d'un endettement monstrueux dont il est vital de rechercher les raisons afin de les terrasser. Endettement qui se monte à plus de 3 300 milliards, c'est-à-dire plus de 110% du PIB. Raison principale, l'industrie, et c'est pour cela que nous avons invité notre invité spécialiste de l'entreprise et de l'industrie, industrie qui perd plus de 400 milliards de chiffre d'affaires chaque année. De 675 milliards qui devrait être son chiffre d'affaires actuel, elle ne produit plus que 274 milliards. D'où la stagnation du PIB, une baisse des recettes pour l'État et de cotisations pour la protection sociale. Manque d'investissement, nous dit-on, non, seulement ceux-ci se sont portés vers la finance, la spéculation et l'immobilier. Alors que des pays comme la Pologne, les Pays-Bas et l'Italie se plaignent du fait que nos investisseurs, bien français, achètent leur entreprise. L'investisseur n'a donc plus confiance dans la politique française. La suite est catastrophique. Ayant travaillé avec Maurice Allais pendant 3 mois, 2h30 par jour en tête à tête, le prix Nobel évoquait souvent le PIB et calculait chaque année le montant que ce dernier aurait dû atteindre si la politique avait été suivie, avait suivi la route indiquée par le général de Gaulle. 2025, PIB autour de 3 000 milliards d'euros. J'ai repris les calculs de Maurice Allais. Résultat, le PIB actuel devrait s'élever à 7 000, 9 milliards. 3 000 à 7 000, cela fait une sacrée différence due à l'arrêt de la croissance dans les années 70-74. Nous voulons trouver nos places. Alors, deux obligations. Priorité des priorités, le retour à notre souveraineté nationale, dont la souveraineté monétaire. En effet, la Chine, seconde puissance économique mondiale, a dévalué sa monnaie de 22% pour rester compétitive. L'Amérique, première puissance économique mondiale, l'a fait baisser de 14%. Comment lutter avec un euro sur lequel nous ne pouvons intervenir et qui s'obstine à rester monnaie forte selon la volonté de l'Allemagne? Ensuite, récupérer la défense de nos frontières, ouverte à tous les vents venaient depuis la signature des traités. D'abord celui de Rome, dans lequel l'article 110 permet à toutes les marchandises d'envahir nos marchés, article repris dans Maastricht et Amsterdam. Par ailleurs, avec une présidente de la commission étrangère qui traite à notre place de nos affaires étrangères, alors que le quai était quand même un élément de première qualité. La conquête sans réformer l'Union européenne est quasiment impossible. Que nous reste-t-il ? Notre siège de monde permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, mais là aussi, attention, danger, l'Allemagne est à l'œil fixé dessus. Nos territoires d'outre-mer que nous ne devons cesser de protéger. Notre force de dissuasion nucléaire que certains aimeraient bien partager. Là aussi, attention, danger. Il reste notre langue, notre culture et l'article 2 de notre Constitution. La France est une république indivisible, etc. Il y avait nos entreprises, hier extrêmement compétitives, mais qui malheureusement le sont de moins en moins. Nous avons une mission, faire connaître les problèmes qui ont fait reculer cette compétitivité afin de les effacer. D'abord, la tertiarisation de l'économie décidée dans les années 80 qui a laminé la composante essentielle de notre souveraineté dans le domaine de l'entreprise. Ensuite, le coût des productions, la protection sociale, énorme avancée sociale qu'il faut préserver, devient néanmoins une gêne insupportable à cause des charges financières. Nous, pour supprimer cette charge, nous proposons depuis longtemps, et souvent à ce micro, le transfert de son financement du monde du travail vers celui de la consommation. Nous proposons aussi que les cotisations patronales deviennent un fonds de pension qui permettront l'investissement. Il y a surtout la complexité de l'administratif, les décrets, les normes, les décisions européennes et tout domaine. Tout cela est véritablement indigeste. Mais aussi la distribution des dividendes, passée de 5 à 25% depuis la crise de 2008, ce qui alourdit le prix des productions et décourage la main-d'œuvre. Chacun doit le savoir, nos délocalisations ont favorisé le transfert de nos technologies, de nos savoir-faire vers des pays où la main-d'œuvre est exploitée. Qui n'est protégé de rien ni contre rien. Mais le premier souci, la finance. Depuis 1944, la finance mondiale est dirigée par le dollar. Or, une monnaie nationale, gérée par des autorités nationales à des fins nationales, ne doit jamais servir d'étalon monétaire international. Depuis la distribution de la monnaie appartient aux USA. En effet, chaque pays ayant besoin de monnaie pour importer pétrole, par exemple, achète du dollar que le marché monétaire américain lui fournit à partir d'une création d'Axiello. Domination de plus en plus combattue et qui demande l'instauration d'un véritable système monétaire international. La chute du mur de Berlin a fait se multiplier les néfastes effets du dollar. La richesse produite depuis est extravagante, dépassant tout entendement. Personne ne peut aujourd'hui indiquer le volume de la monnaie dans le monde. Et qui plus est, elle se pose uniquement sur ceux qui possèdent déjà des actifs et très peu sur ceux qui gagnent leur argent en travaillant. L'économie américaine, guidée par son dieu dollar, est plus tournée vers la bourse et les marchés financiers que vers l'activité productrice. Si bien que l'investisseur, le vrai, quitte les marchés, entraînant ainsi une chute des cours. Nasdaq, moins 12%. S&P, moins 10%. Le résultat, les opérateurs se couvrent entraînant une hausse des taux d'intérêt si bien que l'action est devenue un danger. Début de la fin, si même l'or est entraîné dans cette chute, vers qui le détenteur de monnaie peut-il se tourner? Les risques deviennent alarmants, les fonds devenus dominateurs génèrent des bulles, c'est là que réside le danger, l'accumulation de l'argent sur un produit désigné par ces fonds. L'intelligence artificielle aujourd'hui forme une boule. Et chacun devrait le savoir, le destin d'une bulle est d'éclater. La dernière bulle qui s'est formée est en train d'éclater. Les géants de la tech sont touchés en premier, de moins 35% sur les valeurs boursières. Les petites entreprises de l'IA sont touchées à mort, souvent moins 50%. Et le plus inquiétant, les fonds censés fournir un paradis pour les épargnants voient les leurs confectionner une retraite incapable de rembourser leurs clients ou même simplement de leur fournir des liquidités. Apollo Debt Solutions n'a pu apporter qu'un tiers de ce que lui demandaient ses clients. Blue Note, le capital qui était demandé pour 7,9 milliards, n'a pu en fournir que 5. JP Morgan, qui pourtant est une énorme chose, recule de 16%. Le tout est de savoir si ces baisses ont comme facteur le prix du pétrole ou la politique de Trump. Je pense que c'est en réalité le rejet de l'illibéralisme qui se manifeste, ce qui serait peut-être une bonne chose à condition de le remplacer par quelque chose de supportable pour les États, les citoyens et le monde en général. Attention, la crise économique et financière sévère en train de se former entraînera inévitablement stagflation et hausse des taux d'intérêt, ce que nous pourrons supporter. Ce que je vais vous dire sur la situation du monde pour le reste, ça passe à la télévision toutes les quelques secondes. Même Trump a attaqué le pape, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, une politique, c'est soit on augmente les dépenses, soit on augmente les recettes. Moi, je suis pour une augmentation des recettes, c'est-à-dire une entreprise qui commence à devenir rentable et qui offre à l'État des recettes et aux employés de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, madame ?
D'abord, quelle introduction on a fait, vous avez balayé l'état du monde et en vous écoutant, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être européen ? Le monde va tellement mal et on est le dernier continent libéral où il fait bon vivre, où il y a des protections sociales, de l'éducation gratuite, où on peut s'exprimer librement, absolument, où les journaux sont libres, les universités sont libres, et un continent qui n'a pas envie d'envahir son voisin des folies, même si on est attaqué par notre flanc est. Mais d'abord, quel bonheur d'être européen. Vous avez évoqué aussi... l'ONU, notre place au Conseil de sécurité et en fait notre faiblesse, malgré le fait qu'on soit très heureux d'être européens et français, nous sommes faibles parce que vous avez évoqué aussi l'Europe qui tente de mener une politique étrangère sans en avoir forcément le mandat ni la capacité. Moi, je pense qu'on a besoin d'une Europe forte pour être entendue dans le monde. Mais une Europe forte ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la puissance économique. Absolument. Et peut-être que ça va faire le pont avec mon livre et puis des sujets que je connais mieux. Mais sans puissance économique, il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas de redistribution, il n'y a pas de société harmonieuse et il n'y a pas de voix qui porte dans le monde, ni de défense possible contre les puissances étrangères qui voudraient nous attaquer. Et je pense qu'on a vraiment un flambeau à porter, flambeau de la liberté, et on devrait être un modèle pour le monde si on était capable de restaurer cette puissance. Et cette puissance est très affaiblie aujourd'hui, vous avez parlé PIB, mais je pense que les solutions existent et qu'elles ne sont pas si compliquées, pour autant qu'on ait des débats à l'occasion de l'élection présidentielle qui arrive. Par où commencer ? On pourrait évoquer évidemment l'industrie. Vous avez parlé des charges sociales, vous avez parlé des investisseurs. Donc je propose que dans le temps qui nous est imparti, on balaye un petit peu tous les sujets.
Tout à fait.
Je vous laisse orienter.
Moi, je pense que, bien sûr, les dépenses ont augmenté. Bien sûr, il y en a qui pourraient être reniées, mais... je ne pense pas que ce soit la vérité, le vrai problème. Le vrai problème, c'est quand même cette industrie qui a baissé son chiffre d'affaires. Et ces 400 milliards que nous perdons chaque année, on les retrouve dans l'endettement de la France. Donc, je voudrais avoir votre sentiment. Qu'est-ce qui, en fait, a fait baisser nos PIB industriels ? Et est-ce qu'il y a une solution pour les remonter ?
Oui. Moi, je pense que alors c'est vraiment le cœur de mon livre, Patron tenez bon, je balaye les différents sujets. Il y a, de mon point de vue, quatre grands sujets. Il y a les investisseurs qui ne trouvent pas d'investissement rentable. Il y a la complexité, la surréglementation qui est au quotidien un vrai problème de gestion qui décourage beaucoup de monde, mais aussi qui décourage les investissements quand on a des plans d'urbanisme qui interdisent certaines activités économiques, ce sont des emplois qui ne sont pas créés. Quand on interdit de travailler le 1er mai, c'est de la croissance économique en moins. On pourrait parler de dérèglement. Enfin, il y a l'urbanisme, il y a l'environnement, il y a le droit du travail, et toutes ces lois qui se sont empilées de manière monstrueuse au cours des dernières décennies. Faut savoir que le code de l'impôt aujourd'hui c'est 1,5 million de mots. Le code de l'urbanisme, la consommation, c'est 1,2 million de mots.
On
donc,
peut pas s'en sortir.
C'est la recherche du temps perdu, volumes en entier. Donc personne ne peut connaître la loi. L'administration qui est souvent quand même très anticapitaliste, anti-entrepreneur, très conservatrice. Utilise cette complexité parfois pour armer la loi contre les projets et contre les entrepreneurs. J'en parle longuement dans mon livre. Et la surréglementation, c'est la surtransposition européenne. On incrimine tout le temps l'Europe, mais déjà, si on ne surtransposait pas, c'est-à-dire si on n'aggravait pas les lois européennes pour en faire quelque chose de deux fois plus compliqué en France, nous serions à égalité avec nos concurrents les plus proches, les plus directs et les principaux, parce que on peut dire la concurrence chinoise, mais la vérité c'est que nous importons énormément de nos voisins européens et que
plus d'ailleurs des voisins européens que de la Chine.
Et donc un des grands principes qu'on devrait avoir si on voulait restaurer une croissance en France, ce serait d'avoir l'objectif, surtout dans les réglementations, on va parler plus tard de la fiscalité, de se mettre dans la moyenne européenne. Et déjà, si on se fixait cet objectif, qui est très raisonnable, parce qu'on vit très bien chez nos voisins européens, on ne peut pas dire que l'État-providence est mauvais, on ne peut pas dire que les paysages sont défigurés, on ne peut pas dire que les produits dans les supermarchés sont de mauvaise qualité. Et donc, si on pouvait simplement, poser le principe de viser la convergence européenne, de responsabiliser les uns et les autres, parce que ce qu'il y a aussi derrière cette réglementation, c'est une volonté de normaliser, de moraliser, d'infantiliser, parce qu'on décide pour chacun quel est l'emballage de la barquette de poulet dans le supermarché, comment on doit tailler les, comment... de quelle manière on doit formaliser la formation à la sécurité dans les entreprises. C'est complètement fou, c'est Kafka. C'est Kafka, je pense que même Kafka, quand il a écrit Château, n'avait pas imaginé que ça pourrait être aussi fou qu'aujourd'hui en France. Je crois que le code du travail, attendez, je l'avais noté. Le code du travail avant-guerre, c'était 150 000 mots. Aujourd'hui, c'est 1,2 million.
C'est ça le problème.
Et c'est...
Un des problèmes.
C'est un des problèmes. Et ça veut dire en plus que pour l'artisan, le petit entrepreneur, le patron de PME, même d'une petite ETI, s'il n'a pas une armée de conseillers autour de lui qui surveillent les évolutions de la loi, qui font les mises à jour en permanence, qui font l'audit interne en permanence, il est incapable de... On dit que pour vivre dans une démocratie, nul n'est censé ne pas connaître la loi.
Je vais vous couper si vous le permettez. L'artisan est le conseiller. L'artisan a besoin d'être conseiller. J'ai fini ma carrière, je sors de la banque et j'ai fini ma carrière avec, en montant un cabinet de conseil pour les petites entreprises. L'artisan a besoin du conseiller, seulement il ne veut pas le payer. Ce n'est pas rentré dans la nature des artisans français. On ne paye pas le service, on a du mal. Ce qui doit rapporter, c'est ce qu'on fait avec les mains. Mais s'il y a un type... Regardez un peu les problèmes des comptables avec les artisans.
Moi, je peux vous dire que dans mon entreprise industrielle, d'abord, j'avais une équipe... le site d'Armentière, 300 personnes. On avait peut-être 3 personnes qui s'occupaient à plein temps de toute la conformité avec les réglementations du travail. On avait un cabinet extérieur que nous payons très très cher, qui nous, chaque année nous balayait les évolutions réglementaires. On payait par ailleurs des cabinets d'audit qui venaient nous auditer régulièrement, passant en revue nos procédures, leur application. On avait de l'audit interne encore en plus. On avait, bon. Et un jour, j'ai été mise en cause par un inspecteur du travail qui est venu un été dans l'entreprise sans aucun témoin, donc personne n'a participé à la scène, qui a trouvé un stagiaire qui n'aurait pas reçu de formation à la sécurité en entrant dans l'entreprise. Le fait est qu'on n'a pas retrouvé la signature sur sa formation. Son manager a certifié que la formation avait eu lieu. Il y avait 40 stagiaires cet été-là. On avait les signatures pour les 39 autres. Et je me suis retrouvée d'abord au commissariat de police, puis au tribunal, où j'ai eu une mention sur mon casier judiciaire.
Ah, quand même.
Quand même. Quand même. Le juge m'a dit « Tiens, ce matin, j'ai collé un patron qui avait envoyé un ouvrier sur les toits sans harnais. » J'ai répondu « Excusez-moi, monsieur le juge, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. » Mon avocat m'a dit tout de suite « Tais-toi ». Le juge m'a répondu « Madame, souhaitez-vous que je renvoie l'inspecteur du travail dans votre entreprise donc je vous mets une mention sur votre casier et on en reste là. » Et 1,2 million de mots dans le code du travail, malgré toutes mes équipes, je ne pouvais pas garantir
tout à fait
être parfaitement en sécurité, et j'ai accepté la sanction. En rentrant chez moi, j'ai dit ça y est, on déménage, et puis après j'ai dormi et bon, je suis restée. Mais il y a un système qui est devenu fou, qui ne fait pas sens, parce que le stagiaire n'était pas dans une situation dangereuse, il n'a pas eu d'accident, enfin il n'y avait aucune raison de s'acharner comme ça. Et surtout, puisque j'avais des sites dans d'autres pays, par exemple en Angleterre et en Allemagne, il y a une responsabilisation, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un problème, l'entrepreneur a des comptes à rendre et on n'est pas tendre avec lui. Mais on ne va pas aller vérifier s'il a obtenu la signature sur un petit bout de papier sans sens. Parce que, en plus, il y avait eu deux formations, parce qu'on passait par une agence d'intérim. Il y avait la formation à la sécurité de l'agence d'intérim, il y avait la nôtre. C'était seulement sur la nôtre que ça manquait. Et de toute façon, ce qui compterait à la limite, ce serait de vérifier la qualité de ces formations. La petite signature n'avait aucun sens. Donc c'est pour dire que la complexité est utilisée pour décourager l'esprit d'entreprendre et que c'est très, très nocif pour la croissance économique. J'ai vu que l'OCDE a sorti une étude en 2025 qui estime que... simplifier les réglementations impliquerait à 10 ans un gain de croissance de 5 à 10% du PIB. On ne parle pas de clopinette et de nid de peccadille. C'est majeur et ça peut être fait intelligemment parce que moi je suis pour les normes, mais je ne suis pas pour l'infantilisation, la déresponsabilisation, parce que c'est ça que ça veut dire. À la limite, il y aurait eu un accident, mais j'aurais eu ma signature sur le papier. J'étais en ordre, je n'avais pas de problème. Hein.
Oui.
Donc ce qu'il ne faut pas, c'est pas remplir des CERFA et des coches à grands frais, c'est retrouver du bon sens, de la responsabilité et de la croissance économique. Ça, c'est un des grands sujets. Alors évidemment, vous avez évoqué la protection sociale et la fiscalité. Moi, je pense que l'industrie a été massacrée et que, non, en partie par la réglementation, mais pas seulement, la structure de la fiscalité est très très responsable parce que on a un système dans lequel peut-être d'abord reposer les grandes masses. Quand on regarde Eurostat, les entreprises payent en impôts, taxes et cotisations sociales moins les subventions, je précise, moins les subventions, 6 points de PIB de plus que dans la zone euro.
Oui.
6 points de PIB, c'est la bagatelle de 180 milliards. On parle pas d'une pécadille non plus. Et quand on regarde tous les impôts qui sont payés, alors c'est Kafka aussi, hein, parce que les impôts, on en paie de tous les côtés, grands impôts. Il ne faut pas imaginer que c'est seulement l'impôt sur les sociétés. Il y a ce qu'on appelle les impôts de production, c'est 3S, taxes foncières, CFE, il m'en manque une, je ne sais plus laquelle. Ça, c'est déjà 50 milliards. Et ça n'existe, pour ainsi dire, pas chez nos voisins. Donc déjà, qui paye l'impôt de production ?
Ah oui, oui, voilà.
En grande partie, l'industrie.
Tout à fait.
Les entrepôts aussi payent, les surfaces commerciales payent une taxe, j'ai oublié son nom, Ascom. Mais bon, c'est beaucoup plus faible, ça n'a rien à voir. Donc Impôt de production, 50 milliards. Et ensuite, ce sur quoi je passe un chapitre dans mon livre, c'est toutes les taxes qui sont assises sur les salaires et qui n'ont rien à voir avec la maladie, la santé, les retraites et le chômage. C'est ce que moi j'appelle les cotisations sociales de production. Ce sont des impôts déguisés. Ça devrait être dans la catégorie impôt de production, c'est assis sur les salaires. Et alors malheureusement, depuis la fameuse réforme de simplification de la fiche de paye, que moi j'appelle dissimulation de la fiche de paye, on ne peut plus voir où partent nos cotisations, parce qu'ils ont tout mis sur une ligne ou deux. Donc on ne voit plus où partent, ce qui est totalement antidémocratique, parce que normalement, article 14 de la Constitution, on est censé voir où part l'argent, pouvoir en contrôler. Bon. Donc maintenant, si vous voulez voir où partent les cotisations de vos impôts, il faut que vous ayez voir votre DRH, vous lui demandez le détail de ses paramétrages de fiche de paye, ou vous essayez de lire la centaine de pages de la loi de financement de la sécurité sociale. Je pense que même les députés qui la votent ne la comprennent pas. Donc, c'est juste pour se donner mal à la tête, mais certainement pas pour y voir clair. Toujours est-il que ces fameuses taxes dont je parle, il s'agit des allocations familiales. 5-25% quand même du salaire brut tous les mois, hein, donc et en net ça fait encore plus.
Et on se dépeuple quand même, ça.
Pour l'anecdote, il y avait deux taux, il y avait 3,45 et 5,25, dans les dixièmes je me trompe peut-être. Et là, depuis 2026, on vient de supprimer le taux réduit, tout le monde est passé à 5,25. Bon, évidemment, personne ne peut le voir, c'est comme ça, hop, en douce. Il y a un créneau, on y va, allons-y. Ça, il est prévu que ça rapporte 4 ou 5 milliards d'euros quand même. On ne parle pas de rien. Sur le dos donc, du pouvoir d'achat des salariés, des entreprises qui recrutent, qui sont plus intensives en main-d'œuvre. Alors même que quand vous regardez la loi de financement de la sécurité sociale, la branche famille est déjà excédentaire avant reversement à d'autres régimes d'à peu près 7 milliards d'euros.
Donc
on est excédentaire de 7. Comme on a un créneau, là, on en rajoute. Et in fine, pourquoi est-ce que c'est aux salariés français de payer la politique familiale de la France? Est-ce que d'autres agents économiques... ça n'a rien à voir avec la relation employeur-salarié. Ça n'a rien à voir avec un salaire différé. C'est absolument pas juste, ni équitable, ni justifié de demander aux salariés ou aux entreprises intensives en main-d'œuvre de payer particulièrement cette politique. Même raisonnement pour le financement des allocations logement, pour la participation à l'effort de construction, pour la formation professionnelle et apprentissage, pour la contribution solidarité autonomie, le financement des syndicats, le financement de l'APEC, je suis sûre que j'en oublie. Moi, la taxe sur les salaires, on est le seul pays européen. Toutes ces taxes, de toute façon, on est le seul pays, au moins européen, si c'est pas dans le monde, j'en sais rien, à avoir imaginé asseoir des politiques publiques sur les salaires.
Sur les salaires.
Moi, j'ai compté, ça fait au moins 12% des salaires bruts. C'est difficile à dire. Le versement transport, j'allais oublier. On fait du transport gratuit tout le temps. Tout le monde prend les transports, pas seulement les salariés. Et pourtant, c'est eux qui payent. Et moi, je serais curieuse qu'on fasse un sondage et qu'on dise 2% de salaire en plus contre une baisse des financements publics des transports. J'aimerais bien voir quelle serait la réponse. Donc 12% des salaires, 120 milliards d'euros. Et donc on a... et ce qu'il y a de pire dans cette logique, c'est que ce qu'on dit, ce sont les entreprises qui payent 180 milliards de plus. Mais quand on regarde, du coup, ce ne sont pas les entreprises en sens large. Certaines payent plus que d'autres. Et même... pour certaines, c'était tellement insupportable qu'on a imaginé des allègements de charges pour les bas salaires, parce qu'on ne pouvait pas payer. On a imaginé des baisses de TVA pour l'hôtellerie-restauration ou le bâtiment, parce que les modèles économiques ne fonctionnaient pas. Pour la recherche, on a imaginé le crédit impôt recherche. Mais pour celles qui n'ont pas bénéficié de retour de bâton, en particulier des industries comme la mienne, c'est plein pot. Et donc, plus vous embauchez, plus vous payez. Plus vous investissez, plus vous payez. Et si vous avez des modèles économiques où vous faites, vous importez des produits étrangers et vous avez juste un entrepôt avec quelques magasiniers proportionnellement, vous contribuez beaucoup moins aux politiques françaises que l'industrie. Donc, bah, à la fin, moi, j'avais calculé que j'aurais pu doubler le montant de mes investissements annuels si je ne devais pas payer ces taxes assises sur les salaires. Et de fait, les entreprises françaises ont un excédent brut d'exploitation rapporté à la valeur ajoutée de 30%, quand la moyenne en zone euro, c'est 40%. Donc évidemment, ça fait des salaires comprimés, ça fait des investissements réduits, et ça fait et en particulier sur l'industrie, sur les entreprises qui ont un peu moins de valeur ajoutée, les entreprises provinciales, parce que ne peut pas être Airbus ou Louis Vuitton ou toutes les entreprises. Il y a tout un tissu qui dans d'autres pays est solide, en Italie, en Allemagne, le Mittelstand, les ETI italiennes, où l'artisanat se porte très bien. Mais en France, c'est étouffé depuis des années et des années.
Et puis quelque chose aussi, ces impôts, ces taxes, ces protections sociales ne sont pas payées par les importateurs, par ceux qui nous envoient des choses. La Chine, lorsqu'elle nous vend des produits, elle ne paye pas de protection sociale. Donc, c'est pas compétitif et on est parti sur un mondialisme qui veut que la concurrence soit libre et non faussée. Ça colle pas.
Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Moi, quand j'y réfléchis, je me dis, premièrement, il faut passer en revue toutes ces politiques publiques qui ont un impôt fléché et mesurer leur impact et regarder si on ne peut pas les optimiser et dépenser moins d'argent. C'est déjà
la
base.
Ils regardent.
On peut aller plus loin, je
sur
pense.
Sur la protection sociale, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Sur la protection sociale, je la passais, comme je le disais tout à l'heure, du monde du travail à celui de la consommation. C'est-à-dire que, en fait, cette protection sociale était payée par le consommateur. Elle est déjà payée par le consommateur, de toute façon. Mais une fois le produit vendu, ce qui permettait à l'entreprise quand même d'être mieux. Et tous les pays qui nous envoyaient quelque chose payaient cette protection. Alors, on avait choisi une très mauvaise formule qui s'appelait la TVA sociale. J'en avais parlé avec Henri Guénaud et ils ont appliqué, mais ils n'ont pas compris, ils ont ajouté de la TVA, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est quelque chose qui est possible, ils le savent, ils connaissent le dépeuplement de la France actuellement. Ils savaient à l'époque, ils avaient anticipé, ils savaient que ça allait se produire comme ça. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. L'investisseur, le problème aussi, c'est l'investissement en France. L'investissement, je crains que ceux qui soient restés en France soient devenus non plus des investisseurs, mais plutôt des spéculateurs. C'est-à-dire qu'on voit toutes les parties, la bourse, on voit l'immobilier, on voit toutes les choses qui gagnaient de l'argent sans trop travailler, prendre la place de l'investissement. Ça, c'est un problème. Sur la Chine, la Chine est compétitive pour une raison, c'est que l'État verse beaucoup, beaucoup d'argent aux entreprises exportatrices. Actuellement, dans les transports, la Chine ne peut pas s'en sortir. Elle est en train d'aider ces entreprises de transport pour qu'elles restent compétitives. Alors, c'est de l'argent qu'ils fabriquent. C'est pas de l'argent qu'ils gagnent, c'est de l'argent qu'ils fabriquent. Et là non plus, il n'y a plus de concurrence libre et non faussée.
Alors, je vais vous répondre tout de suite, mais peut-être juste pour finir sur la TVA sociale. Vous avez raison, ça paraît être une piste intéressante, la TVA, en remplacement notamment de ces cotisations sociales. Bon, malheureusement, on sait que dans notre pays, c'est pas tellement consensuel et je sais pas. Moi, je pense que ce serait une bonne solution, mais je suis pas sûre que ce soit consensuel. Je veux juste faire remarquer que le niveau de la TVA en France c'est le seul impôt qui est inférieur aux moyennes européennes. Sur tous les autres impôts, on est largement au-dessus de...
C'est l'impôt qui rapporte le plus.
Et notamment à cause des taux réduits qui existent. Dire quand même qu'il y a une piste qui a fait l'objet d'ailleurs d'un rapport du think tank Génération Libre, le Liber Deal, qui propose de supprimer toutes les subventions aux entreprises en échange de la suppression de ces taxes, ces cotisations de production assises sur les salaires. En tout cas, moi, je pense qu'il faudrait les supprimer, quitte à les balancer vers la CSG, la TVA ou même si on dit c'est absolument aux entreprises de payer, que au moins ce soit dans le taux d'impôt sur les sociétés et pas sur ces trucs assis sur les salaires qui sont illisibles, injustes. Et au moins, eh ben, on aurait la vérité des prix. On dirait que les entreprises françaises ne sont pas taxées à 31%, comme on le croit, mais à 40%. Au moins, les choses seraient sur la table. Et tout puis, toutes les entreprises seraient taxées de la même manière à proportion de leurs résultats. Parce que ces impôts de production et ces taxes, ces cotisations de production, on les paye même quand on perd de l'argent. Enfin, on tombe sur la tête. Alors, la Chine et les subventions de la Chine. Et aussi dire, à partir du moment où ce serait, par exemple, même de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA, ça veut dire que les produits importés contribueraient aux politiques publiques autant que la production nationale.
C'est ça l'intérêt.
Et donc, pourquoi aller s'embêter à faire des subventions de réindustrialisation ou dire on va faire des taxes à l'import?
Absolument.
Si déjà les importations, on pourrait avoir une structure fiscale qui mettrait déjà tout le monde à égalité. Alors, bon, la Chine verse des subventions, c'est vrai. C'est vrai que la communauté européenne a quand même beaucoup de taxes anti-dumping au fur et à mesure.
Oui.
La difficulté, c'est qu'à chaque fois, ça a un ou deux ans de retard. Et que dans l'intervalle, ça fait du mal. Alors, l'entrée de la Chine dans l'OMC fait beaucoup de mal parce qu'effectivement, elle manipule sa monnaie, elle verse des subventions et c'est très compliqué. Bon, il faut quand même, on est tous un peu schizophrènes parce qu'en tant que consommateur, quand même, on en profite beaucoup.
C'est vrai, vous avez raison.
Et
faut
donc,
le dire.
Ça a quand même bien accru notre pouvoir d'achat. Donc, moi, je pense que si déjà on avait une politique fiscale avec une vraie boussole, on taxe du bénéfice, on ne s'acharne pas sur ceux qui font de l'investissement et recrutent beaucoup de monde. On attend qu'ils gagnent de l'argent au moins pour les taxer. Je pense que déjà, on aurait un vrai effet booster, même sans réduire la pression fiscale, mais simplement en la structurant de manière intelligente, rationnelle, lisible pour tout le monde. Ça changerait beaucoup de choses. Et bon, il ne faut pas être naïf avec la Chine, mais on en retire des avantages. Donc, il faut bien réfléchir avant de pénaliser le pouvoir d'achat des Européens.
Ce qu'il faut anticiper aussi avec la Chine, c'est qu'elle est en train de reculer quand même pas mal. Elle a d'énormes problèmes financiers, parce que le PC a obligé les Chinois à acheter des appartements qui sont inoccupés, à s'endetter pour les acheter. Ils ont mis tout le secteur immobilier qui ne fonctionne plus. Ils ont mis les banques en danger. Le coût actuellement de ce qui se passe avec l'augmentation du pétrole, le transport est touché. Donc la Chine va, à mon avis, reculer un petit peu. Et ça, il faut le prévoir aussi.
Oui. Alors, je ne suis pas spécialiste de la Chine. J'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on dit ça.
Oui, c'est vrai qu'on en a dit. Mais là, ça va à une vitesse grand V.
Oui, et puis la Chine a ses problèmes démographiques, et la Chine...
Le monde change.
Le monde change.
On a actuellement des... Regardez, je vous dis, il faudrait qu'on parle un petit peu de l'or, juste deux mots. L'or baisse, on est en pleine catastrophe économique et financière. Habituellement, les gens achetaient de l'or. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent de l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? En définitive, ils se sont tellement endettés pour acheter des valeurs immobilières qui montent, qui spéculent, etc., qu'aujourd'hui, ils sont coincés, sont obligés de vendre leur or pour payer un petit peu ce qu'ils doivent. Voilà. Donc, ce monde auquel on était habitué est en train de se modifier. Et ça, il faut l'anticiper.
Oui, alors, effectivement, l'évolution de l'or en ce moment... Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste de ce sujet, mais j'ai lu que la hausse aussi, parce que l'or baisse actuellement de manière contre-intuitive, mais il a aussi beaucoup augmenté ces dernières années, notamment sous la poussée d'achats faits par tous les pays
du
sud global qui ont beaucoup acheté d'or. Et j'ai lu qu'ils vendaient beaucoup d'or aussi en ce moment, avec un impact non négligeable sur les marchés du fait des perturbations actuelles. Bon, allez. C'est sûr que l'or, c'est un produit spéculatif par excellence.
C'est un produit tout à fait spéculatif. Seulement, il bouge les choses, il change les choses. Le monde, là, est en train de changer et il va encore changer. Ce Sud global fait maintenant la moitié du chiffre d'affaires, enfin de la moitié du PIB mondial. Donc c'est devenu une force économique quand même extrêmement importante. Nous ne sommes plus les rois du monde, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on plonge comme nous avons plongé. C'est-à-dire, quand vous passez de 7 000 à 3 000 à 1 milliard, il y a quand même un petit problème. Il faut qu'on retrouve un petit peu. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans notre conversation, c'est l'entreprise. Comment faire pour remonter en dehors des problèmes d'impôts, de taxes, complexité, vous les avez bien cités. Pourquoi est-ce qu'il y a des produits français acceptés par les pays étrangers actuellement, recherchés par les pays étrangers? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une demande de nos produits? Parce que c'est, comment voulez-vous relancer l'industrie si on n'a pas grand-chose à offrir? Et quelque chose qui serve le besoin et le désir des clients.
Alors moi, j'ai une confiance totale dans la... l'ingéniosité française, de la qualité de nos ingénieurs, notre capacité à faire des propositions de valeur dans les services, dans les nouvelles technologies et dans l'industrie. Nous avons beaucoup d'atouts, la formation des ingénieurs, un coût de l'électricité qui fait beaucoup débat en France, mais oui, qui n'est pas si mauvais. Un réseau logistique fantastique, une place en Europe qui nous donne accès à un marché extrêmement vaste avec énormément de consommateurs. Le problème est en nous-mêmes, il n'est pas chez les clients, hein. Le problème il est en nous-mêmes. Un droit du travail qui est sclérosé, la relation de subordination, le contrat à durée déterminée d'un autre âge, on a besoin de relations du travail modernisées, fondées sur une modernité sociale, les nouvelles façons de travailler, et pas cette infantilisation du salarié, responsabilisation outrancière du patron. On a besoin de s'inspirer d'un vieux modèle nord-européen qui s'appelle la flexi-sécurité, sécuriser les personnes et pas les postes à tout prix, parce que quand on a besoin de pivoter dans une entreprise, ça passe par des mouvements des réorganisations qui sont totalement impossibles dans notre pays. Donc quand dans un conseil d'administration d'une société multi-européenne, on doit décider dans quelle ville localiser un investissement, je suis désolée de le dire, c'est Bastia, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Hein. L'investissement est localisé chez nos pays voisins et pas ici, compris par les investisseurs français.
Oui, oui, c'est vrai.
Et personne ne va s'en vanter parce que ça fait polémique, parce que ce n'est pas patriote. Mais la rationalité, le fait que l'investissement, déjà au lieu d'avoir 30% de BE, il en aura 40%, qu'en cas de problème, on pourra réorganiser et donc on va recruter plus vite parce qu'on sait que si on a trop recruté, ça posera pas de problème. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas respectueux des salariés, ça veut juste dire que les relations s'organisent différemment, que les personnes peuvent être sécurisées de diverses manières et pas forcément toujours dans le même emploi, et que c'est une autre raison d'espérer, c'est de se dire il y a des réformes intelligentes qui pourraient changer le dynamisme de notre croissance économique. Il y a la fiscalité, il y a le droit du travail, il y a la surréglementation. Si on pouvait jouer de manière radicale sur déjà ces trois piliers, la croissance économique de la France, ce serait merveilleuse. On reprendrait la tête des pays européens, j'en doute pas une seconde. Mais il faudrait qu'on soit capable de se réformer. Et ça veut pas dire qu'on serait...
Je suis d'accord avec vous, sauf sur une chose. Vous avez parlé de... Nous avions conservé nos qualités. J'ai reçu ici le patron des ingénieurs de France. Il se plaignait et de la qualité et du nombre d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'étudiants ingénieurs. Et je cite un exemple. Lorsqu'on a eu les problèmes avec les centrales nucléaires, on n'avait plus de soudeurs en France. On est allé aux États-Unis pour chercher des...
Oui, alors je connais bien, parce que moi j'ai été sous-traitant de l'industrie nucléaire, donc je connais bien le sujet, c'est pas que les soudeurs. Et vous avez raison, je me suis peut-être enthousiasmée sur les ingénieurs. Il y a un vrai sujet sur la formation en France. C'est vraiment l'éducation nationale est vraiment... c'est pas normal que la France soit en dessous de la moyenne dans les PISA.
Tout à fait.
C'est une honte nationale. La cause est largement identifiée. Cette politique de nivellement par le bas de l'éducation pour amener une classe d'âge 80% au bac, qui ensuite vont aller faire des études
de rien.
En université, en plus sur des sujets qui n'ont pas de débouchés économiques, qui vont générer plein de frustrations parce que ensuite les emplois ne sont pas à la hauteur des diplômes. Et tout ça parce qu'on a renoncé par anti-élitisme, par... Pour des raisons idéologiques, on a renoncé déjà à enseigner correctement à lire, à écrire et à compter. Dans mon entreprise, pour les machines de production, on recrutait qu'au niveau BTS, alors que deux générations avant, c'était du niveau CAP. Pour les postes comptables, on faisait des tests de règles de 3 parce qu'on s'était aperçu que les personnes que nous recrutions ne savaient pas faire des règles de 3. C'est complètement c'est fou. Et en tant que mère de famille, je me suis bien rendu compte que, en ayant inscrit mes enfants en plus dans des écoles privées, mais simplement le contenu des programmes faisait que j'ai eu le sentiment que notre milieu familial, les lectures que j'ai données à mes enfants, l'histoire que j'ai racontée à mes enfants, les a éduqués, peut-être pas autant que l'école, la reproduction sociale est beaucoup plus forte qu'avant, puisque les meilleurs élèves à l'école ne sont pas tirés de manière élitiste par l'école nationale républicaine. Et que ce sont les familles qui font en grande partie le travail d'éducation pour celles qui peuvent. Et si on a des parents qui parlent mal français, et ben malheureusement, on n'a pas une école qui est là pour les accompagner. Et Mais encore une fois, je pense que c'est assez clair pour ne serait-ce que par les tests PISA, le diagnostic est posé. Donc moi, je rêve que le prochain président de la République nomme un directeur de l'éducation nationale avec l'objectif unique de remonter de je ne sais pas combien de places dans les classements PISA.
Vous avez absolument raison.
Et qu'on lui demande rien. Déjà qu'il a un objectif, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est son objectif, et qu'il n'en ait pas 10, c'est juste un, celui-là.
Juste un. Vous avez tout à fait raison, parce que la formation, effectivement... a nettement baissé. Lorsque vous regardez ce qui sort en ce moment sur l'amour des jeunes vis-à-vis de la lecture, c'est une catastrophe. Ils lisent plus du tout. Et s'ils lisent plus du tout, c'est quand même une faute aussi des parents, parce que moi, j'ai appris à lire. C'est mes parents qui m'ont appris. Enfin, je n'ai pas de mérite. Je suis fils institutrice, 3e République. Et ma mère, qui était institutrice, on l'appelait la mère tape dure. C'est-à-dire que de temps en temps, elle distribuait une calotte en disant qu'on apprenait beaucoup mieux l'orthographe par les fesses qu'autrement. Et elle n'avait pas tort, en définitive. On a eu des gens, à l'époque, avec un examen qui était sensationnel. C'était quand même le certificat d'études. Vous vous rendez compte des gens qui, à l'époque, à 14 ans... Moi, je n'ai pas connu 11 ans, j'ai connu 14 ans, la période 14 ans, où les gens savaient lire, écrire et compter, connaissaient les départements, nos frontières, les ceci, les cela. Après, ils passaient un CAP et ils faisaient de très bons ouvriers. Je pense qu'il faut retomber sur ces filières. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. Et puis tout le monde n'a pas besoin d'un grand diplôme. Un pianiste n'a pas besoin d'être bachelier. C'est tout à fait...
Et puis on peut commencer... moi, j'ai une vision aussi de carrière dans le temps. Et on peut commencer par un CAP et devenir ingénieur à 40 ans.
Tout à fait.
En poursuivant ses études, chacun son rythme. Et ça peut faire les meilleurs ingénieurs, c'est pas la question. Mais ce qui est important, c'est de transmettre une culture du travail et de l'excellence.
Absolument, c'est ce qui est de moins en moins fait actuellement. Mmh. Et de la part des parents, et de la part de l'éducation nationale.
Oui.
Les deux ont baissé un peu les bras. Et puis, on va pas retomber sur les 35 heures. Jospin est mort, laissons-les tranquilles. Mais c'est quand même une catastrophe.
Ah, mais moi, je pense qu'on a eu au moins deux grandes erreurs depuis 1981, dont on continue à payer très chèrement les conséquences. C'est la retraite Mitterrand. Lui-même savait que sa réforme n'était pas durable, mais on en paie quand même très très cher le prix. Et les 35 heures, parce que ça a eu un double effet. D'abord, comme la productivité n'a pas augmenté, ça a eu un effet de tassement sur les salaires. Et tout simplement, s'il n'avait pas eu lieu, les salaires aujourd'hui seraient 11,7%, je ne me souviens plus, plus élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est directement du pouvoir d'achat en moins pour les Français encore aujourd'hui.
Et on a tué l'administration aussi.
Deuxièmement, comme en même temps, on a augmenté considérablement le SMIC. Non seulement parce que ce qu'il faut comprendre dans l'industrie, c'est que c'est pas le salaire mensuel qu'on regarde pour facturer les clients, c'est le salaire horaire. Et donc, le SMIC horaire a augmenté de 11,2% à l'époque pour les 35 heures, plus tous les rattrapages qui ont été faits les années d'après. Donc, je pense qu'en 10-15 ans, le SMIC a augmenté de 15% et a rendu d'abord le travail non qualifié, puisque on a en France, c'est une de nos caractéristiques par rapport à nos pays voisins, on a plus de personnes non qualifiées que pays voisins. Donc, on a rendu le travail non qualifié... hors de prix. Évidemment, ce sont eux qui sont au chômage principalement aujourd'hui. Merci. C'est vraiment le problème de notre pays. Et en plus, comme le SMIC a augmenté très vite, alors que les autres salaires ont augmenté moins vite, il y a eu un tassement.
Tout à fait.
Et ceux qui gagnaient 1,5 fois le SMIC se sont retrouvés à 1,2 fois le SMIC, avec un ressenti d'appauvrissement colossal, puisque se trouvant de plus en plus proche du SMIC. C'est un des gros problèmes qu'on continue à gérer aujourd'hui et qui est loin d'être résolu, sauf à augmenter le volume d'horaires travaillés.
Absolument.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, continuez, madame, vous pouvez. On a quand même un taux de productivité qui a baissé. Ça, c'est pas un bon signe. Et puis, je vais vous poser une question. Est-ce que nous savons vendre? D'abord, nous vendre, nous, et vendre nos productions.
Alors, en tant que chef d'entreprise européenne, moi, je me suis toujours passionnée pour les différences culturelles. Et j'ai fait beaucoup de formations interculturelles dans mon entreprise, notamment, enfin pas que, mais entre anglais, français et allemand. Et évidemment, les anglais sont les meilleurs vendeurs, les allemands sont de très bons industriels. Et nous, les français, on a un modèle un peu hybride, on essaie de faire les deux. On est plus créatif, on va dire, on est plus innovant que les Allemands, mais bon. Et donc le Graal serait évidemment de bien s'imprégner de toutes ces cultures européennes et de tirer le meilleur des qualités des uns et des autres. On n'est pas si mauvais commerçant, vendeur que ça.
Je parle pas de commerçant, je parle de vente.
De vendeur, oui. Bon, je pense qu'on est quand même dans la nuance et que...
Vous savez, est-ce qu'il y a une école de vente en France? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Il y en a à l'étranger?
Ah oui, bien sûr. Oui, moi je suis diplômé d'école de vente. En France, il n'y en a pas. Les deux écoles de vente qui sont arrivées en France ont été achetées l'une par Pernod, qui d'un seul coup, ses employés, ses représentants sont mis à vendre. Ils ont quand même acheté Ricard, qui était quand même une sacrée boîte à l'époque. La deuxième a été rachetée, ça s'est mal fini, par le Crédit Lyonnais. Mais bon, il y a eu des problèmes d'ordre politique entre Tapie et François Hollande à l'époque, qui ont fait que Crédit Lyonnais n'a pas résisté. Mais sans ça, il n'y a pas d'école de vente chez nous. Il y a des écoles de commerce, mais il n'y a pas d'école de vente. Or, la vente en France, on croit que c'est dans un bistrot qu'on se tape dans les mains et qu'on a dit oui ou on a dit non. Non, c'est un métier, ça s'apprend, c'est un art, c'était des techniques. C'est la recherche du besoin, la recherche du désir, le potentiel, etc. Ce que les gens font
jamais. On enseigne le marketing, mais pas la vente. Enfin, il y a beaucoup de modules de formation dans les entreprises.
Les entreprises, ils ne sont pas tous bons. Et vous savez, ce problème qu'on a en France, il existait déjà dans le temps, parce que Colbert s'en est aperçu. Et le Colbertiste sait faire du beau et du solide, de façon à pouvoir échapper à la concurrence, parce qu'il avait bien vu qu'on ne savait pas vendre. Regardez un Italien, ça vend n'importe quoi. Ils savent vendre, ils vendent. Ils réussissent pas trop mal à vendre.
Moi, on n'est pas mauvais non plus. Enfin, moi, j'ai exporté dans le monde entier. Et
On ne peut pas être quand même très bon si on a une balance commerciale qui est déficitaire et large.
Il faut avoir des produits compétitifs aussi.
C'est ce que je dis, voilà. Il faut le produit.
On en revient toujours à la réglementation et à la structure de fiscale.
Et puis,
à la productivité horaire du travail.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la baisse de productivité, du taux de productivité n'est pas bon. Donc, on a vu avec vous le problème de la vente, même si on n'est pas tout à fait... Mais je suis quand même... Je plaide pour des écoles de vente. C'est une technique tout à fait... où on apprend quand même dans les écoles de vente, normalement on doit apprendre ce que c'est que la finance, un petit peu quand même, tandis que là ils ne savent pas, il y a beaucoup de choses qu'on est à côté complètement.
Après, dans l'industrie en B2B, nous on recrutait plutôt des ingénieurs qu'on formait à la vente.
Oui, oui, et oui. Alors pour vous l'entreprise maintenant, pour la sortir de là en France. Parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça, ce n'est pas possible. On voit bien que tous les autres pays essayent de favoriser leurs entreprises. Chez nous, on en parle, mais on ne fait rien.
Alors, on arrête de subventionner et d'essayer de donner, par des décisions politiques hasardeuses, les bonnes directions. On arrête de subventionner, on supprime toutes les subventions. On arrête de taxer les facteurs de production et les salaires pour les politiques publiques. On supprime tout ce qui est surréglementation, on simplifie le code du travail en revenant à quelques principes responsabilisants pour libérer les entreprises. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui serait de réformer le syndicalisme et le paritarisme.
Oui, vous avez raison.
Dans certaines entreprises, ça dépend beaucoup des villes, des lieux, des personnes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les syndicats ont un pouvoir colossal dans notre pays.
Alors qu'ils représentent pas grand monde.
Et que s'ils tombent dans les mains d'une ou deux personnes motivées et particulièrement anticapitalistes, ça peut faire des ravages localement terribles. J'en parle dans mon livre, pour ceux que ça intéresse dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... le syndicalisme est basé sur un triple monopole. Le monopole de présentation, si vous n'êtes pas syndiqué, vous ne pouvez pas vous présenter.
Mais...
les candidats libres, en théorie, sont possibles, mais seulement après échec d'une première élection. Et puis, enfin, bon, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut retenir monopole des syndicats. Il y a le monopole de signature, c'est-à-dire que même quand vous avez élu votre CSE, ceux qui ont le droit, parmi les élus de votre entreprise, de signer les accords d'entreprise, c'est pas tous les élus qui vont voter à la majorité comme au conseil municipal. C'est uniquement le représentant syndical qui a été nommé par la centrale de la ville.
Tout à fait.
Donc c'est la CGT qui va choisir autour de la table qui a le droit de signer.
Tout à fait.
Et moi, dans mon entreprise, ça m'est arrivé plusieurs fois. Si la personne envisage de signer des choses qui ne plaisent pas à la centrale syndicale de la ville... qui est peut-être un permanent de la sécurité sociale, de l'URSSAF, qui n'y connaît rien à l'entreprise.
Tout à fait, c'est ça le problème.
Ils envoient un petit courrier à la direction de l'entreprise. Ils disent « Monsieur Machin n'est plus délégué syndical, je nomme Monsieur Dupont à la place. » Et du coup, c'est politique.
Tout à fait.
Les intérêts de l'entreprise ne sont pas correctement pris en compte. Encore une fois, il y a des villes, il y a des gens qui disent « moi, je ne comprends pas, tout va bien ». Mais tout ça est très fragile. Il suffit qu'il y ait la mauvaise personne qui arrive dans une ville ou dans une entreprise et tout ça peut basculer. Nous, on a connu quelques années, on a géré, hein, mais ça use de l'énergie, ça use...
Tout à fait.
Quand on doit décider où on localise un investissement, c'est forcément pris en compte. Et puis, ça décourage ça décourage les élus. Ça décourage les gens de se présenter. Nous, de toute façon, il y avait autant de syndiqués dans l'entreprise que d'élus au CSE. Ah, il y en avait pas un de plus.
Il n'y a pas.
Donc, et puis après, il y en a qui abusent parce qu'ils ont des protections. Donc moi, je me souviens qu'on avait, on a eu ponctuellement un délégué syndical qui se pensait tout puissant et qui était absent des journées entières sans qu'on sache pourquoi. Et après avoir épuisé depuis longtemps ses quotas d'heures de délégation. Et quand on a commencé à l'interroger, immédiatement, il s'est mis en maladie. Et immédiatement, on a reçu un courrier de plusieurs pages de l'inspection du travail nous demandant d'arrêter le harcèlement syndical.
Ah.
Donc, tout ça est indu. Alors, on entend souvent les syndicats ne marchent pas en France parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, donc on va encore plus les subventionner. Ils ont déjà 4 milliards d'euros de budget qui sont prélevés sur les fiches de paye, hein, je rappelle. Il faut qu'il y ait une liberté totale hors de ces syndicats, de se présenter et de voter. Et le pire, c'est qu'après, derrière, tout le paritarisme est assis sur ces syndicats.
Tout à fait.
Et j'ai même envie de dire patronaux et salariés.
Oui,
et ça, après, ce sont eux qui gèrent des caisses. Ça leur donne un nombre d'emplois permanents, détachés. Il y a le fameux rapport Perruchot qui est bien vieux maintenant, mais qui raconte tout ça. Enfin, dont on a lu des extraits, puisque c'est le seul rapport de l'Assemblée nationale qui n'a pas eu l'autorisation d'être publié. Mais tout ça est encore une fois, puisque la syndicalisation est quand même plus présente dans les entreprises industrielles.
Bien sûr.
Que dans d'autres secteurs, parce que ce sont des secteurs un peu plus anciens. Encore une fois, ce qu'on dit toujours en Allemagne, les syndicats, c'est beaucoup mieux. Pourtant, ils sont très puissants. On devrait avoir les syndicats puissants comme en Allemagne. Alors, en Allemagne, il n'y a pas cette culture anticapitaliste. Hein. Il faut savoir que les fonctionnaires n'avaient pas le droit d'être affiliés au Parti communiste jusque dans les années 80 en Allemagne. Hein. Donc, il n'y a pas cette culture anticapitaliste. Les entreprises adhèrent de manière volontaire ou pas. Aux syndicats. Donc, parce qu'on dit toujours l'IG Metall en Allemagne signe des accords fantastiques sur les hausses de salaire. Mais il faut savoir que le Mittelstand des PME allemandes de la métallurgie n'adhère pas à IG Metall et donc n'applique pas. Alors qu'en France, systématiquement, dès qu'il y a un accord de branche, c'est étendu par la loi. Il faudrait arrêter ça tout de suite, évidemment. Et donc, les entreprises qui n'ont pas les moyens sont quand même forcées de suivre. Voilà. Et puis, bon, bah, la gestion paritaire des organismes sociaux, on voit où ça nous a mené. C'est le micmac total.
C'est pour ça que je me suis tout le temps opposé au syndicat, parce que, en définitive, c'est une idéologie qui s'occupe d'un problème à l'échelon national et non pas à l'échelon de l'entreprise. Et moi, je privilégie le comité d'entreprise s'il va dans le bon sens, où il s'occupe de l'entreprise dans laquelle il existe, voté par les employés de l'entreprise qui ont bien voulu y aller ou pas. Donc voilà, je suis un vrai gaulliste. Donc, comité d'entreprise prioritaire. Je voudrais vous demander aussi quelque chose. Dans le problème de l'industrie en France, est-ce qu'il n'y a pas un désamour des Français vis-à-vis de l'industrie ?
Il a existé, c'est certain. Il y a même une époque où on voulait absolument avoir une société tertiaire en France et on n'avait plus besoin de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie française est inférieure à tous nos voisins. Même en Angleterre, il y a plus d'industrie, plus de population active dans l'industrie qu'en France, hein, ce qui est quand même incroyable. Mais je pense que le temps des regrets et de la redécouverte de l'industrie est arrivé, parce que l'industrie quand même a fait sa mue aussi. Elle est devenue extrêmement moderne, extrêmement technologique. Il n'y a plus de pénibilité au travail dans l'industrie.
C'est vrai.
Avec les robotisations et puis tous les progrès qui ont été faits dans l'industrie. Les salaires sont extrêmement élevés dans l'industrie. Ça paye beaucoup mieux que beaucoup d'autres secteurs industriels.
Donc, il faut le faire savoir, par contre. Tout le monde ne le sait pas.
Non, tout le monde ne le sait pas. Ce qui est difficile, c'est de remplir les classes de formation. Former des tourneurs fraiseurs, aujourd'hui, ça devient compliqué. Les classes sont vides, donc elles ferment. Donc, On est peut-être à un point de retournement où on peut redécouvrir ces métiers avec un œil plus positif aujourd'hui. Il faut que ça se transforme en jeune qui se destine à ses carrières, c'est sûr. Mais les métiers d'ingénieur sont vraiment de très beaux métiers.
Absolument, oui.
Y compris pour les femmes. Hein, oui. Il y en a un peu plus, mais ça n'a pas encore vraiment décollé. Mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'industrie, contrairement à ce qu'on croit, et qui ont... Ils sont très heureuses. Et puis, non, il y a plein de beaux métiers. C'est quand même des métiers dans les métiers de l'énergie, je connais bien. C'est quand même des métiers qui participent à la transformation des modes de production de l'électricité, à la décarbonation de nos usages, ou alors dans l'industrie agroalimentaire, à être bien nourrie. Ou bien, c'est plein de métiers enthousiasmants. Moi, ce que j'ai vécu aussi dans mon entreprise, c'est la fierté de fabriquer un produit.
De réussir.
Et de réussir.
Ouais.
Et quand on travaille dans des métiers plus dématérialisés, cette fierté n'est pas la même. C'est très gratifiant de travailler dans l'industrie.
Dites-moi, puisqu'on bénéficie de votre présence, si vous nous parliez un peu de l'énergie et ce qui est en train de se passer actuellement.
Alors, l'énergie est au croisement de deux grands enjeux, la décarbonation, qui est importante, et la souveraineté, puisqu'on voit bien que dépendre du pétrole, du gaz, ou même de l'uranium étranger,
et vous avez raison,
est un souci. Donc, moi j'ai toujours été pro-nucléaire, j'ai travaillé dans cette filière, je trouve que c'est une grande force de la France d'avoir une... filière nucléaire, c'était une grande erreur d'arrêter Fessenheim et de différer certains projets. On y revient, c'est bien. Néanmoins, je suis adepte d'une stratégie prudente dans laquelle on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, dans laquelle on est vigilante à avoir un mix énergétique varié, y compris les énergies renouvelables dont les prix sont en train de dégringoler, même en comptant le stockage et le réseau. Et qu'on a besoin de tous les types d'énergie et on a besoin d'électrifier les usages. Voilà. Donc, moi, je suis assez enthousiaste parce que je pense qu'on sera plus fort à la fin. Je pense que la France a d'énormes atouts parce qu'il y a aussi la géothermie,
oui,
il y a aussi l'hydraulique.
L'hydraulique.
Et que, avec tout ça, dans quelques années, on aura une énergie décarbonée et locale. Donc c'est très enthousiasmant, je pense, et même dans le pilotage des réseaux, dans la gestion de... Parce qu'il y a beaucoup de critiques sur l'impact des renouvelables dans le réseau, mais tout ça est en train de se mettre en place. Les systèmes de gestion, le balancing des batteries et des usages en fonction des heures de la journée, des périodes. Bon, il y a l'intraday, il y a l'intersaisonnier, mais tout ça va s'organiser et on aura un mix à la fin qui sera équilibré et compétitif et souverain.
Parce qu'aujourd'hui, madame, j'ai traversé pour venir parce que j'habite dans la région d'Orléans. Donc j'ai traversé une petite partie du Gâtinais et une grande partie de la Beauce où il y a des éoliennes. Ça pousse plus vite que le blé actuellement. Le gros problème, d'abord, je suis contre la position des éoliennes en terre de Beauce parce que la terre de Beauce est une terre qui nous nourrit. On aura besoin de nourriture un jour ou l'autre. Mais comme il n'y avait pas de vent, il n'y a pas une éolienne qui marchait.
Les énergies renouvelables sont... Pour l'éolien et le solaire sont intermittentes, on est d'accord. Mais leur rentabilité est calculée sur leurs heures de production.
Oui.
Elles sont rentables, il n'y a aucun doute. Je suis d'accord qu'il faut être très vigilant dans la protection des paysages. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Je suis entièrement d'accord, mais moi je suis pour un mix. Je pense même aussi, c'est important de le dire, qu'on a plus besoin de subventions pour ces énergies. Je pense que peut-être qu'il y a quelques années on en avait besoin. Maintenant il faut aller vers la vérité des prix, avoir des marchés où le signal prix permet de jouer et de favoriser les bonnes énergies au bon moment et générer des stratégies industrielles d'usage qui tiennent compte de ces différences de prix. Je pense aussi que de l'autre côté, tout ce qui est prime rénov, c'est une aberration sans nom. Quand on fait des politiques de subvention pour changer les usages chez les particuliers, la moindre des choses, ce serait de calculer les coûts d'éviction. Parce que je crois que j'espère que je ne dis pas une énorme bêtise, mais il me semble que la prime rénov, ça revient à 1 000 euros de subvention par tonne carbone évitée. Quand on sait que la tonne carbone vaut, je ne sais pas, 80 euros actuellement, je suis pas ça de près. Mais c'est une aberration complète de l'argent public, alors qu'on sait, compte tenu de nos budgets, qu'on n'a pas à jeter l'argent par les fenêtres en chauffant la maison à fond, fenêtres ouvertes. Hein. Et donc, il faut un peu moins d'affichage politique et beaucoup plus de rationalité. Et aider des usages éventuellement avec un investissement raisonnable et en ligne avec le vrai coût du carbone, ok, mais pas 150 fois le coût du carbone, c'est une aberration avec l'argent public.
L'investissement, alors ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que l'investissement est souvent public. Est-ce qu'on ne pourrait pas se tourner vers le privé? C'est-à-dire, là on veut faire des petites centrales nucléaires, avoir besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas un sou, pas un sou. On a une obligation, là ça va sortir, je m'en parlais tout à l'heure, dans l'émission avec le général Menu, il faut qu'on retrouve 30 milliards pour l'armement. On fait comment ? L'énergie nucléaire, l'armement...
C'est ce qu'on disait en introduction, on a besoin de retrouver une prospérité économique parce qu'on a des enjeux de sécurité, effectivement, et donc il faut qu'on libère l'économie, c'est ce dont on discute depuis une heure.
Tout à fait.
Et il y a des investisseurs privés chez EDF, sauf erreur de ma part. La partie publique, c'est quand on garantit sur plusieurs décennies le coût d'achat de l'électricité.
Moi, j'ai connu le financement privé qui se faisait à l'époque du temps du général de Gaulle et de Georges Pompidou. On lançait des obligations à 5%. Les Français adhéraient. Parce que c'était marqué en dessous, garanti par l'État. Or, les Français qui hurlent après l'État depuis 2000 ans, sont, dès qu'il y a quelque chose, ils ont confiance qu'en l'État. On pourrait peut-être recommencer ça, parce que lorsqu'on voit les sommes déposées sur les livrets de caisse d'épargne, même si en ce moment ça baisse un peu, sur les comptes assurance vie, etc., on pourrait peut-être mettre ça autre part, en incitant les Français à souscrire à des emprunts. Il faut que ça leur plaise. Il faut qu'ils aient confiance.
Pour faire l'emprunt piné.
Il faut que ça leur... qu'ils aient confiance.
Emprunt piné qui portait des avantages fiscaux non négligeables.
C'est certainement l'emprunt qui nous a coûté le plus cher. Parce que tous les héritages faits en or à l'époque ne payaient rien. Mais enfin bon, piné.
Il y a eu l'emprunt Giscard.
Alors, l'emprunt Giscard, c'est l'emprunt Pinet qui a été modifié, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus le problème d'héritage en or, on n'existait plus. Mais Giscard a eu de la chance que les gens ne se fâchent pas, hein. Parce que quand même, si l'autre n'était pas bon, celui-là était très mauvais. Mais c'est bizarre cette histoire, parce que la confiance, c'est ça. La confiance, c'est Pinet. Les Français avaient confiance en Pinet. Quand j'étais gamin, j'ai vu des tonnes d'affiches, best finet, 5%.
D'ailleurs, le terme exact, lorsqu'on donnait le cours, c'était la rente Pinet.
Non. La rente Pinet, ouais. c'était son emprunt. Oui. Et la best finet, c'était sur les, quand il était président du conseil.
Ah, oui, d'accord.
Ça a été sur les produits. Best finet, alors les Français étaient contents. Vous vous rendez compte, à l'époque, on avait une inflation de 12%. On avait une baisse de 5%, c'est-à-dire on avait en fait une augmentation de 7%. Et ça a marché. Et lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu changer la manière de faire la monnaie, son franc lourd, il lui fallait comme... Alors qu'il n'aimait pas Pinet pour deux, mais pas du tout. Il a pris Pinet parce qu'il avait compris que les Français adhéreraient à son truc si c'était Pinet. Aujourd'hui, il nous manque pour relancer une politique... Il nous manque un type en qui les Français ont confiance.
Enfin, je suis désolée d'être basique et pragmatique, mais des réformes de terrain.
Bien sûr.
Un choc de simplification fiscale. On garde juste CSG, TVA, ISIR et on met les taxes là-dessus. On est vigilant dans nos études d'impact sur les politiques, le versement transport. Est-ce que c'est intelligent de mettre tout ça dans les politiques publiques, etc. On simplifie le code du travail. on arrête de on supprime toutes ces surréglementations une à une, et vous allez voir qu'on va avoir un choc de croissance économique et que rapidement on va retrouver un équilibre des comptes et on va pouvoir financer notre effort militaire qui est indispensable, parce que moi je suis très préoccupée de la menace russe contre l'OTAN qui est quand même imminente et qu'il ne faut pas sous-estimer et la complaisance de certains envers Orban et Poutine est impardonnable à mon avis. Il faut vraiment être sérieux, il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut se préparer économiquement, militairement, énergétiquement aussi, il faut faire les investissements, mais ça veut dire qu'il faut travailler, il faut être sérieux, il faut être adulte.
Il faut redonner confiance aux gens, et pour ça, il faut avoir une politique, comme vous le dites.
Mais c'est possible, parce que tout ce qu'on dit, c'est pas du tout le bagne, c'est juste vivre comme nos voisins européens. Il suffit de le décider, peut-être être un peu radical, mais dans des choses raisonnables.
Regardez. Je parle toujours de ça parce que j'ai un âge certain. En 1958, quand De Gaulle est revenu au pouvoir, l'État m'avait payé un petit voyage en Algérie. Donc j'étais en train de me promener sur les monts Kabyles en Algérie. Au mois de mars 1958, je n'aurais pas parié un copec sur De Gaulle. Deux mois après, il était au pouvoir. Donc tout est possible. Il suffit... D'abord, qu'il y a un besoin, il y a un besoin. Et après, qu'il y ait une... Je ne sais pas faire de politique ici, mais on a quand même des pays, des partis politiques à l'extrême-gauche qui sont plus qu'une nullité. C'est même... Au début, on les a pris pour des cirques. Non, c'est pire que ça. C'est des entreprises de destruction. Et moi, je disais tout le temps, laissez Mélenchon tranquille. Il est assez bête pour se tuer tout seul. Mais quand on regarde le résultat des municipales, il ne s'est pas tué du tout. Hein. Donc il faut faire très très attention à ce qui est en train de se passer. Et on pourrait avoir une sacrée surprise ou des sacrées démangeaisons. Donc il va falloir que des gens se lèvent et disent « Moi, j'ai un programme, c'est ceci, cela. » Il va falloir que les Français aient confiance. Ça, c'est quelque chose qui me paraît... Est-ce que vous pourriez, excusez-moi de revenir en arrière, nous parler un petit peu de cette prime Rénov'-là? Parce que les Français en entendent parler, en fait, ils ne savent pas ce que c'est.
Ouais, c'est une prime qui permet de faire des dépenses d'isolation à la maison pour baisser sa consommation énergétique. Le problème, c'est que les budgets dépensés ne sont pas du tout rentables par rapport à l'empreinte carbone économisée. Il y a même des études qui disent qu'en fait, on consomme même pas moins du tout à la fin. Ça améliore le confort dans les maisons. Mais bon, et puis c'est quand même une usine à gaz administrative. Enfin, le coût de gestion est hallucinant. Enfin, il y a des gens qui en profitent pour plus ou moins frauder. Enfin, c'est vraiment le château de Kafka dans toute sa splendeur. Mais ça donne l'illusion qu'on a une politique environnementale.
En fait, on installe des pompes à chaleur chez les gens et on les aide financièrement. Le gros problème, la question qu'on peut se poser, la première. Les pompes à chaleur, qui est-ce qui les fabrique?
Mais vous savez, moi j'ai envie de dire, c'est comme pour les panneaux solaires, on dit oui mais c'est subventionné par les Chinois. Bah, si les Chinois ont envie de nous les vendre à perte, bah, tant mieux, profitons-en. Oui. tant mieux pour nous. S'ils sont assez idiots pour nous les vendre à perte, après on est tranquille pendant 10 ou 15 ans, voire 15 ou 20 ans, tant mieux.
Mais il arrive bien un moment quand même d'acheter des produits qui valent... qui devrait valoir plus, c'est bien, on fait des bonnes affaires, sauf que on endette l'État quand même. Là, lorsque vous regardez un endettement de 3300 milliards, et je le dis souvent, l'endettement n'est pas remboursé par le PIB, il est remboursé par le budget de l'État, le budget de l'État n'est pas à ce montant-là.
Mais ça, je l'ai dit, par contre, ça ne devrait pas être subventionné, ça devrait pas être subventionné par l'État. Moi, je crois beaucoup... à la rationalité économique avec un vrai signal prix. Il faut que les prix ne soient pas faussés, que chacun, de manière souveraine, responsable, intelligents. On est tous suffisamment intelligents pour faire nos calculs. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que j'ai envie de le faire? Pourquoi c'est à l'État de décider ce qui est rentable pour nous et de nous, nous forcer, de nous prendre l'argent par les impôts et nous le redonner de l'autre côté pour qu'on fasse une décision qu'on aurait pu prendre souverainement, tout seul, en faisant notre budget et en regardant est-ce que c'est rentable ou pas? Et bon, c'est un petit peu... Le drame du système français, on a des tickets pour tout, même le cordonnier. C'est du grand n'importe quoi et c'est de l'infantilisation. Et à la fin, c'est la liberté d'utiliser notre budget qui est. C'est un problème de liberté.
Alors, le titre de votre livre, Patron, tenez bon, vous ne voulez pas les emmener à l'abattoir. Si vous dites ça, c'est parce que vous dites que s'ils tiennent bon, on gagnera.
Oui. Et bon, tout en invitant nos pouvoirs politiques à faire les réformes dont nous avons besoin.
Mais
c'est tenez bon jusqu'à ce qu'on fasse les réformes.
Un pouvoir politique fait toujours des réformes. Seulement, il faut qu'on lui demande. Si le clientélisme veut que ce soit 35 heures des ponts à pu en finir, on meurt gentiment si l'homme politique en face n'est pas capable de dire « je ne peux pas faire ça ».
Je pense qu'on est nombreux à parler dans le désert depuis très longtemps, mais je pense aussi qu'on a actuellement une prise de conscience dans l'opinion.
Ça commence.
Il y a eu trop de moralisation, de réglementation moralisatrice, il y a une indigestion de bureaucratie. On voit bien que le pouvoir d'achat est entaché par des prélèvements dans lesquels on fait un usage de notre propre argent dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on choisirait si on avait à faire nos propres arbitrages. Et je pense qu'il y a un vent de besoin de liberté sans casser le système social. Hein. On n'a même pas parlé aujourd'hui de la réforme des retraites ou de la réforme du chômage. On a parlé de paramètres périphériques. Qui aurait un impact colossal sur la croissance économique et sur la liberté qu'on pourrait tous retrouver dans les arbitrages de notre vie quotidienne ou de la manière de gérer le budget de notre famille. Et moi, je veux croire que cet appétit de plus de liberté et de choix retrouvé dans la cellule familiale pourrait faire l'objet d'un vrai débat pour la présidentielle.
Absolument.
Et nous mettrait sur le chemin d'une croissance retrouvée.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je suis d'accord avec le titre de votre livre, « Patron, tenez bon ». Vous savez, j'ai 86 ans, je tiens toujours. Pourtant, je suis maintenant un petit peu handicapé, mais je tiens toujours parce que je pense, mais je le pense vraiment, que la France, elle a besoin de gens qui se lèvent le matin de bonne heure en disant « Qu'est-ce que je vais faire pour servir mon pays? Qu'est-ce que je vais faire pour servir ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour servir les autres ?» Le titre de votre livre, « Ce patron tenez bon », me convient tout à fait. Alors après, vous parlez du parcours, du conventeur, d'une chef d'entreprise, ça c'est autre chose, mais que les patrons, les investisseurs, les employés, que tout le monde tienne bon, parce qu'on n'est pas loin de quand même que le monde s'effondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette fin.
Le monde va mal, mais l'Europe, la France, les Français ont leur mot à jouer, leur mot à dire, leur pièce à jouer.
Il faut qu'ils lisent.
Et si on en prend conscience, on pourrait vraiment être le phare du monde dans ce monde devenu fou.
Oui. Moi, j'y crois aussi, vous avez tout à fait raison. Alain,
j'y crois aussi. Pas tout à fait de la même façon, mais j'y crois aussi. fondamentalement.
Quelle est votre différence?
Pardon?
Votre différence?
Ah bah, là, il faut faire une autre émission. Je pense que là, on a eu une vision, mais d'une, je dirais, absolument remarquable, que j'ai rarement vue. Moi, j'ai quand même été chef d'entreprise pendant 35 ans, avec des syndicats aussi. Donc, tout ce que vous dites là, c'est... d'une profondeur et d'une exactitude absolument remarquables. Il n'y a rien à retirer, sauf peut-être une espérance politique qui, à mon avis, est mal placée. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une autre émission, complètement différente, qui n'est pas en cause une seule virgule de votre discours.
On a le devoir d'être optimiste et de se battre pour nos idées.
Voilà.
Je pense que les prochaines présidentielles, puis c'est quand même de ça qu'il est question, devront absolument traiter aussi du problème, non seulement du problème du chômage, mais du problème des retraites.
Oui.
Si nous n'avons pas la force de traiter ce problème et de trouver une solution qui soit agréée par tout le monde, on est fichu.
Non, mais je suis d'accord, les retraites, le chômage et même dans une certaine mesure la santé, c'est trois réformes qui sont nécessaires, mais ce seraient trois autres émissions.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, Madame Karine Le Charmonnier, je vous remercie. Vous avez été extraordinaire. Je rappelle votre livre,
Patron,
tenez bon, le parcours du combattant d'une chef d'entreprise, paru chez Albin Michel. Je vous remercie beaucoup.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrault, assisté d'Alain Rohu. Émission préenregistrée le 14 avril 2026 et diffusée pour la première fois mardi 28 avril 2026 de 14h à 15h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.